Charles de Lain, le compère de la mort. Autant jadis, il y avait un gros censier nommé Jean-Philippe, qui demeurait au hameau de Chêne-Raoult, à quatre portées de Fronde de Condé-sur-l'Escaut. Il ne faut point confondre le Chêne-Raoult avec la queue de la Garche. Tous les deux dépendent de Macou, mais l'un est à gauche et l'autre à droite de la grande route de Gand. Jean-Philippe avait une femme et 12 gars, forts comme des attaches de moulin, et lui-même, quoique grisonnant, était aussi droit qu'un peuplier. Or, il arriva que, pour ses étrennes, sa femme lui fit cadeau d'un 13e garçon qui ne promettait point de ressembler à ses frères. « Tu es maigrelot comme un chat de mai, mon pauvre petit, » dit Jean-Philippe. « Et de plus, tu as le numéro 13, qui est un mauvais numéro. T'as pas de chance, mais c'est un bon moyen de conjurer le sort. C'est te donner un homme juste pour parrain. Il ne sera point malaisé de le trouver parmi les voisins. » Jean-Philippe les passa tous en revue, mais, par malheur, l'un avait essayé de lui voler 6 verges de terre, un autre lui avait tué ses poules, un troisième trichait en jouant aux cartes, le dimanche après-vêpres au cabaret du Coq Hardy. « Bon, j'en dévicherai bien à ma coup, » se dit Jean-Philippe. Il pesa dans sa balance les gens de Macou, puis de Condé, et les rejeta tous, qui pour une raison, qui pour une autre. Monsieur le juge de paix, monsieur le curé de Condé lui-même ne trouvèrent point grâce à ses yeux. En ce temps-là, monsieur le juge de paix, pour aller plus vite, apportait à l'audience ses jugements tout faits. Et au catéchisme, monsieur le curé maintenait à la première place le fils de monsieur le bourgmestre, qui, sauf votre respect, était un âne. Le gros censier se gratta la tête. « C'est pas aussi facile que je le croyais, » se dit-il. « Tenons conseil. » Il réunit sa femme et ses fils et leur exposa le cas. D'après mûre délibération, il fut décidé que, puisqu'on n'avait pas pu découvrir un homme juste en Flandre, on irait en chercher en Belgique. Les Belges, qui sont des gens de commerce, parlent trop souvent d'honnêteté et de justice pour n'en point avoir bonne provision. Le lendemain donc, de grand matin, Jean-Philippe boucla ses guêtres, prit sa crosse et se mit en route. Il marcha 3 jours et 3 nuits, s'enquérant partout, mais nulle part il ne rencontra la justice. Il n'en vit que l'apparence. Les Belges les plus délicats avaient tous quelque pégadille sur la conscience. Peut-être aussi Jean-Philippe était-il trop difficile. Enfin, il arriva dans la ville de Bruxelles, en Brabant. Comme il se promenait par les rues, il avisa une grande et belle maison sur laquelle ces mots étaient écrits « Palais de justice ». Jean-Philippe remercia le ciel de savoir lire et sentit son cœur soulagé. « Oh, je n'ai point perdu mes passes, » dit-il. Il ne faut m'y se demander si le maître d'océan est un homme juste. Entrons. Il entra et vit beaucoup de monde rassemblé dans une vaste salle. Au fond étaient assis en demi-cercle plusieurs personnages à l'air grave, vêtus de longues robes noires et coiffés de toques. En face d'eux, un vieil homme à grande barbe se promenait de long en large comme un ours en cage. Tout à coup, celui qui semblait être le président, vu qu'il avait un galon d'argent à son bonnet, dit à voix haute « L'audience est ouverte, gendarmes, faites asseoir l'accusé, savez-vous » Les gendarmes voulurent obéir, mais comme poussés par une force supérieure, l'homme les renversa par terre et continua sa promenade. Les gendarmes se tinrent prudemment à l'écart. « Votre nom ?» dit le président. L'accusé, d'une voix chevrotante, répondit sur un air bien connu : « Isaac Lacodème, pour mon nom me fut donné, Née à Jérusalem, ville bien renommée. Oui, c'est moi, mes enfants, qui suis le juif errant. Votre âge? La vieillesse me gêne, j'ai bien 1800 ans, chose sûre et certaine. Je passe encore 12 ans, j'avais 12 ans passés quand Jésus-Christ est né. Et quels sont vos moyens d'existence? Je n'ai point de ressources, en maison ni en bien. J'ai 5 sous dans ma bourse, voilà tout mon moyen. En tout lieu, en tout temps, j'en ai toujours autant. Vous avez été trouvé cette nuit en état de vagabondage. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Messieurs, je vous proteste que j'ai bien du malheur. Jamais je ne m'arrête, ni ici ni ailleurs. Par beau ou mauvais temps, je marche incessamment. C'est tout ce que vous avez à répondre? Gendarme, conduisez-le en prison, savez-vous? L'éternel marcheur suivit les gendarmes en souriant dans sa grande barbe. Jean-Philippe s'éloigna tout songeur. Voilà donc comment rend la justice dans son palais, se dit-il. Dieu a condamné cet homme à marcher jusqu'au jugement dernier. Si on le condamne à s'arrêter, on met les lois humaines au-dessus de la loi divine. Oh non, ce n'est pas dans le palais de justice de Bruxelles que je pourrais trouver mon homme. Il sortit de la ville. Le soir tombait. Jean-Philippe entendit des pas derrière lui. Il se retourna, et à la rapidité de la marche, il reconnut le juif errant. Il s'approcha de lui et lui dit, « Bonhomme, vous qui marchez depuis 1800 ans, n'avez-vous jamais rencontré un homme juste ?»« Je n'ai jamais rencontré qu'un seul, » répondit Isaac. « Et on l'a crucifié. Encore, cet homme était-il un dieu ?» Il n'y avait donc jamais eu un seul homme juste sous le ciel. Jean-Philippe était désolé. Il reprit le chemin du chêne Raoult. Vers minuit, à l'entrée de la forêt de Beaudour, il éprouva le besoin de fumer une pipe. Il chercha sa blague. Elle avait disparu. C'était une belle blague en cuivre jaune, comme son étui, et dont il se servait depuis plus de 30 ans. Le censier se rappela qu'au palais de justice, il avait cru sentir une main furtive se glisser dans sa poche. Il comprit pourquoi la justice avait une si grande maison. Elle ne devait point y chômer de besogne. Par bonheur, il vit venir à lui un homme qui, au clair des étoiles, lui parut haut comme une perche à houblon. Cet homme portait une faux aussi longue que sa personne. Jean-Philippe l'arrêta. « Qui que vous soyez, l'homme de Dieu, lui dit-il, ne pourriez-vous me faire l'amitié d'une pipe de tabac? On m'a volé ma blague dans le palais de justice de Bruxelles. » Le chauffeur, sans mot dire, tira sa blague et la présenta à Jean-Philippe. Le gros censier bourra sa pipe et battit le briquet. Ce faisant, il eut le temps d'examiner l'inconnu. Le crâne chauve et luisant, les yeux petits et enfoncés sous l'orbite, le nez plat, la bouche démesurément grande et garnie de quelques dents jaunes, les joues creuses, la peau desséchée, on lui dit un squelette échappé du cimetière. L'étranger paraissait encore plus vieux que le juif errant, et à chacun de ses mouvements, ses membres rendaient un bruit sec et semblable au craquement des chandelles de bois que le vent ballotte à la monstre des épiciers. « Merci, grand-père, lui dit Jean-Philippe, en lui tendant sa blague. « Mais t'as vu que les faucheurs ne gagnent point gros par ici. Pourquoi ça ?» Ben, parce qu'à vous voir, on dirait qu'ils ne mangent pas à toutes leurs sous. Vous voilà maigre comme un chapon de vrant, réante. Soignez-vous. C'est moi qui vous le conseille, vous ne ferez point de vieux os. Sois sans inquiétude, fieux. Mes os enterreront les tiens. Et les petits yeux du vieillard pétillèrent comme une pincée de sel dans le feu. Il reprit. « Et que veux-tu par ici à cette heure ? Ma femme m'a traîné d'un 13e garçon, et le pauvre culot est gros comme une lamelette. Voulant conjurer le professeur, je me suis mis en idée de lui chercher un homme juste pour parrain. Voilà 3 jours et 3 nuits que je cherche. Et tu n'as rien trouvé ? Rien. J'aurais jamais cru que le compère fût si rare. L'inconnu fit une grimace qui avait l'air d'un sourire. Veux-tu de moi ? Toi, est-ce que tu seras un homme juste ? Au fait, tu es assez bien maigre pour ça. Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle la mort.
La mort ? Diable ! Ainsi c'est vous qui ?
Oui, fieu, c'est moi qui.
Oh ! Eh bien, vous avez raison, la mort est juste. Sappho moissonne indistinctement le riche et le pauvre. Allez, top, compère. Et nous boirons canette. Je vous promets un baptême qui sera digne du parrain.
Et à quand le baptême ?
À dimanche, au Chêne-Rebourg, à 4 portées de crosse de Condé. Vous demanderez Jean-Philippe, le gros censier.
C'est bien, bonsoir, compère.
Bonne nuit, la mort.
Les nouveaux amis se séparèrent.
Jean-Philippe rentra, le cœur et le pied légers, au chêne Raoult.
Femme, dit-il à la censière, j'ai trouvé un fameux parrain. Et s'il protège notre petit fieu, le gars ne bourra point en nourrice.
Comme les femmes s'effraient de tout, il ne s'expliqua point davantage. Au jour convenu, pour faire fête à son compère, Jean-Philippe mit sa calotte de velours vert bouteille, ses souliers à boucles d'argent et sa veste de bourracan. Sa femme, ses fils ainsi que la marraine avaient aussi revêtu leurs habits de gala. Le parrain arriva, paré d'une grande houppelande qui flottait autour de sa personne comme une voile le long d'un mât lorsque le vent vient à choir. Il fut généralement trouvé maigre, mais on avoua qu'il avait l'air cossu. Le baptême se vit à Condé, car à cette époque il n'y avait point encore de chapelle à Macou. Et grand-père Jacob joua l'air du roi Dagobert sur le carillon de la collégiale. Le dîner, servi par Madame Jean-Philippe, fut si splendide qu'on s'en souvient encore dans le pays. La censière avait tué son cochon pour cette solennité. Elle mit d'abord sur la table une soupe au petit salé, si épaisse que la cuillère s'y tenait debout. Puis, comme hors d'œuvre, elle apporta des saucisses, des boudins, du saucisson et des andouilles. Les entrées consistaient en côtelettes de cochon, pieds de cochon panés et rognons de cochon sautés. Pour le deuxième service, on vit apparaître une épinée de cochon et un rôti d'oiseau. D'oison, dernigné, farci de chair à saucisse, et flanqué de 2 canards. Puis un plat de choux de Bruxelles au lard et une purée de haricots au lard. Au milieu de la table se prélassait un superbe cochon de lait. Le tout fut arrosé d'un nombre incalculable de pois, de pots de vieille bière brune. Au dessert, pour varier, on but un brassin de bière blanche. Le dessert offrait un beau coup d'œil. On y voyait une énorme goyère et une tarte aux pommes large comme la lune, toutes deux accompagnées d'assiettes de cailloux de gauchis, de couques sucrées et de carrés de Lille. C'était le dimanche de l'Épiphanie, et la veille, au marché de Condé, Madame Jean-Philippe avait acheté chez Roussely pour 1 sou de billets de roi. On fit donc d'une pierre 2 coups. Après le bénédicité, on mêla les billets dans le chapeau du parrain et on tira les rois. C'est la mort qui fut le roi, et Jean-Philippe le fou. On cria « Roi, bois !» chaque fois que la mort vida son verre. Il fut crié, tout compte fait, 199 fois. C'était plaisir de voir manger la mort. Il mangeait autant à lui seul que ses 15 convives, tous flamands. Jean-Philippe se frottait les mains d'aise et pensait tout bas qu'on a mis tort de dire que la mort engloutit tout. Il ne pouvait pourtant s'empêcher d'envier un peu son appétit. Quand on en vint au café, sa gaieté fut au comble. Et d'une voix aussi forte que la voix d'un bœuf, il chanta la flûte à Mathurin avec une fausseté remarquable. Il aurait volontiers tapé sur le ventre de son compère, mais par malheur, son compère n'avait point de ventre. Comme il n'est si belle fête qu'il ne finisse à 10 heures du soir, lorsque le couvre-feu sonna à Condé, on but le verre de l'étrier et, après avoir embrassé sa commère et fait frisette à son filleul, la mort prit congé de la famille. Jean-Philippe voulut reconduire son compère au bout du chemin. Ils partirent bras dessus, bras dessous, en chantonnant. De temps en temps, on s'arrêtait pour réciter une prière, comme on dit chez nous, dans les chapelles de la route, ce qui signifie pour boire une pinte et allumer une pipe dans les cabarets où l'on voyait de la lumière. Les chapelles brillaient dans la nuit aussi nombreuses que les étoiles, car tout le monde tirait les rois, y compris les gardes champêtres. « Ah, ça, compère, dit le gros censier, en devisant de choses et d'autres, vous devez avoir une rude besogne tout de même, et votre métier est plus dur que celui de fermier. Je ne m'étonne plus que vous soyez si maigre, bien que vous mangiez de rue. Combien fauchez-vous de tête par jour en moyenne ?»« En moyenne, 60 000. Et combien en avez-vous fauché ce matin ?»« Oh, pas une. » »« Eh bien, voilà 60 000 chrétiens qui me doivent une fière chandelle. »« Oh, fieu, je n'avais point d'ouvrage aujourd'hui. » J'ai, comme cela, 3 ou 4 jours de chômage par an. Mais comment pouvez-vous savoir quand sonne l'heure de chaque mortel? Viens jusque chez nous, tu le verras de tes yeux. Chez vous, c'est trop loin. Nous ne sommes plus qu'à 3 portées de flèches. Ils approchaient en effet de la forêt de Beaunour. De chapelle en chapelle, Jean-Philippe avait marché 6 heures, sans s'en douter. Il s'aperçut qu'il chancelait un peu quand on arriva à la maison du parrain. La maison du parrain était une pauvre hutte où l'on voyait, pour tout ornement, la grande faux qui, au rayon de la lune, luisait comme une faux d'argent. « Pour un maître ouvrier tel que vous, dit le gros censier, « faut avouer que vous n'êtes pas très bien logé. »« Bon, c'est les mille habitudes qui fait le moine, ni le pot qui fait la bière, » lui dit la mort. « D'ailleurs, je suis garçon, et descendons. » Il prit sa faux, son manteau, sa pierre, et souleva une trappe. Jean-Philippe le suivit. Ils descendirent tant qu'il sembla au gros sensier qu'ils étaient parvenus au centre du monde. L'escalier était très roide et fort obscur, et Jean-Philippe manqua plusieurs fois d'haleine, mais la curiosité le soutint. Ils s'arrêtèrent enfin devant une porte de fer. La mort prit une grosse clé à sa ceinture et l'ouvrit. Soudain, ils furent inondés de lumière. Jean-Philippe, ébloui, ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, il vit devant lui une longue enfilade d'immenses galeries où brillaient des milliards de lampes. Il y avait des lampes d'or, des lampes de vermeil, des lampes d'argent, des lampes de cuivre, des lampes d'airain, des lampes de fer blanc, bref, des lampes de tout métal, depuis le plus précieux jusqu'au plus vil. Elles étaient pendues dans la voûte, accrochées au mur, étagées sur des gradins de porphyre, et, chose singulière, leur clarté ne se confondait point, On distinguait sans peine le rayonnement de chaque lampe. « Qu'est-ce que cela, Jésus, mein God ?» fit Jean-Philippe. « Ben, tu vois les lampes de tous les mortels. Ceci est le grand lampadaire de la vie. Quand une de ces lumières vient à mourir, c'est qu'un être doit s'éteindre là-haut. Oh, que c'est curieux! Ainsi, les lampes d'or sont les lampes des rois, les lampes de vermeil des princes, les lampes d'argent des ducs, les lampes de cuivre des comtes, et ainsi de suite, jusqu'aux lampes de fer qui sont les lampes du menu peuple. » Le gros censier se promena quelque temps avec ravissement. Il remarqua les lampes de plusieurs très hauts et très orgueilleux seigneurs qu'on aurait cru pleines d'huile et dont les lumignons commençaient à rougir. En général, c'étaient les plus riches qui donnaient le moins de clarté. Celle de toutes qui, sans contredit, brillait de l'éclat le plus vif, était un vieux et misérable crasset de forme arnique, quantique. Jean Fillet et Philippe reconnut la lampe d'Isaac Lacedème. Quand ses yeux eurent assez joui de ce spectacle, « Mon compère, dit-il, je voudrais bien voir les lampes des gens du Chêne-Raoult. Première galerie, troisième section, à gauche. » Et la mort se mit à abattre sa faux. Les coups de marteau se succédaient en cadence, et de temps à autre, une exclamation de surprise ou un éclat de rire retentissait dans la première galerie. C'était le résultat des découvertes de Jean-Philippe. Soudain, il reparut tout effaré. « Compère, fit-il mystérieusement, je viens vous prévenir que ma lampe baisse. »« Mais je le sais bien, fieux, dit la mort sans se déranger. « Ah ? » fit le grand censier, surpris de sa tranquillité. « C'est-y un signe que je vais bientôt, parbleu. Mais ce n'est point pour moi que vous... Si, fieux !» Et la mort continua de rabattre sa faux. « Diable !» fit Jean-Philippe. Il poussa le faucheur du coude et en clignant de l'œil lui glissa ces mots dans l'oreille. « Dites donc, mon compère, est-ce que vous ne pourriez pas... Là, entre nous, y remettre un peu d'huile, ça me rendrait un fier service. Y remettre de l'huile, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Ben, nous sommes seuls, et le bon Dieu n'y verra que du feu. Mais pour qui me prends-tu? Dis tes patenôtres, fieux. Entre amis, amis tant que tu voudras, mais dis tes patenôtres. Rien qu'un tout petit peu. Allons, pas tant de compte. Je ne demande qu'à aller jusqu'au mercredi des cendres, histoire de faire carnaval ensemble. Je vous invite pour le mardi gras. Vous verrez quelle noce. Nous barrons plus de 200 chopes chacun. Nous masquerons en bossu et nous irons nous faire sambouler à Condé. Voilà que j'ai fini, je t'en préviens. Si peu que point. Vous en prendrez dans la grosse lampe de monsieur le curé de Condé, qui déborde et qui lui fait si mal. Désolé, mon camarade, mais ça m'est impossible. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Monsieur le curé est un saint homme. Il en ira qu'un peu plus vite en paradis. Non, fieux, non. Faut sauter le pas. Quand tu étais en quête d'un homme juste... Personne, oh, pas même le juge de Bête Condé, n'avait à tes yeux la conscience assez nette. Et tu n'as pas plutôt trouvé ton homme que tu veux le corrompre en lui payant des chopes. T'es encore un drôle de chrétien, toi. Jean-Philippe allait répondre, mais tout à coup on entendit un pétillement dans la première galerie. Sa lampe s'était éteinte.